réclame du temps et on ne me l'accorde pas. Je serai licencié au 15 septembre et je pleure tous les jours.
Des milliers de personnes ont défilé dans toute la France pour dire non au pass sanitaire. À Paris, trois rassemblements et un même mot d'ordre, faire plier le gouvernement. Et premier coup de théâtre ce soir, le Sénat vient de voter contre le pass sanitaire pour les mineurs et contre l'obligation de le présenter pour s'asseoir à la terrasse d'un café ou d'un restaurant. Les sénateurs qui adoptent un amendement pour repousser sa mise en œuvre au 15 septembre dans tous les lieux recevant du public. Pendant ce temps, la course aux injections et aux tests PCR continue. File d'attente devant les labos ou les centres de vaccination, mais déjà des réseaux de contrefaçon s'organisent. À Grenoble, une employée a été mise en examen pour avoir vendu de faux certificats de vaccination. La France en vacances, nouveau week-end chargé sur les routes, près de 1000 km de bouchons à la mi-journée. Et pour ceux qui sont enfin arrivés à destination, la délivrance. Reportage à l'île de Ré. À Budapest, la marche des fiertés contre le gouvernement taxé d'homophobie. Le Premier ministre Viktor Orban promet d'organiser un référendum sur sa très controversée loi interdisant la promotion de l'homosexualité. Le phare de Cordouan, officiellement inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et puis, première médaille pour la France au JO de Tokyo, le judoka Luka Mekidze décroche le bronze dans la catégorie des moins de 60 kilos.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Pendant les vacances, les manifestations continuent. Le pass sanitaire agglomère contre lui les opposants à la vaccination obligatoire et les défenseurs des libertés. On a défilé dans une centaine de villes. À Paris, trois cortèges distincts et l'heure est à la dispersion. Océane Théard, vous les avez suivis pour nous.
Oui, en effet, plusieurs groupes éparpillés dans les rues de Paris, des cortèges et des slogans pour revendiquer la liberté de ne pas se faire vacciner. Des mots qu'on pouvait lire jusque sur les pancartes, « Mon corps, mes choix, mes libertés ». Dans les rangs, on ne trouve pas que des anti-vaccins. Rémi, par exemple, est soignant en Bourgogne, son gilet jaune sur le dos. Il ne s'oppose pas à l'idée de se faire vacciner, mais refuse, d'après ses mots, de servir de cobaye.
Moi, en tant que soignant, je demande qu'on m'accorde du temps. Nous sommes sur des essais cliniques, c'est uniquement. On devrait avoir tous la liberté de choisir et moi personnellement je réclame du temps et on ne me l'accorde pas, je serai licencié au 15 septembre et je pleure tous les jours.
Les manifestants dénoncent surtout une restriction des libertés avec la mise en place du pass sanitaire. Arsène est étudiant à Paris, il a reçu ses deux doses de vaccin.
Je me suis fait vacciner parce que je le voulais, je suis très content de l'avoir fait librement, mais pas au prix d'une restriction de liberté si forte. Même si on s'est fait vacciner, on n'est pas vraiment dans un pays libre quand on doit montrer un pass sanitaire pour aller prendre un café.
Et Christophe, au moment où l'on parle, des dizaines de manifestants ont réussi à atteindre les Champs-Élysées en déjouant le dispositif policier. Ils se sont notamment rendus près de l'Arc de Triomphe où la circulation est toujours en partie bloquée. Quelques heures sont toujours en cours avec des manifestants qui jouent au chat et à la souris avec la police qui cherche à disperser les manifestants au moyen de gaz lacrymogène.
Océane Théard, les opposants qui voulaient faire pression sur le gouvernement. Mais ce soir, la première inflexion vient du Sénat où le texte est actuellement discuté. Les sénateurs votent contre le pass sanitaire pour les mineurs et contre l'obligation de le présenter pour s'asseoir à la terrasse d'un café ou d'un restaurant. Quant à son entrée en application dans les lieux recevant du public, les sénateurs ont voté son report au 15 septembre. En attendant, les Français font comme si et tentent de se faire vacciner ou de passer un test PCR. Il n'était pas rare de croiser des files d'attente devant les laboratoires ce matin. Et puis, il y a ceux qui sont prêts à tout pour obtenir de faux certificats. À Grenoble, une employée d'un centre de vaccination vient d'être mise en examen, Marion Dubreuil.
Oui, car cette jeune femme occupe un poste stratégique dans le plus grand centre de vaccination de Grenoble, 4700 injections par jour. Elle enregistre les patients à l'entrée et elle gère l'extraction de l'attestation de vaccination à la sortie. Son comportement avait attiré l'attention d'un superviseur qui avait repéré plusieurs certificats dans son sac. Un autre témoin avait vu sur son téléphone portable des photos de cartes vitales. Les enquêteurs ont retrouvé une liste manuscrite de numéros de sécurité sociale et des noms barrés. Après avoir nié les faits pendant ses 48 heures de garde à vue, elle a finalement avoué face au juge d'instruction. Elle a reconnu avoir réalisé une douzaine de fausses attestations et s'être fait parfois rémunérer. L'enquête se poursuit pour identifier d'éventuels complices ainsi que les clients de ce trafic.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. Quant aux lieux déjà soumis au pass sanitaire, comme les cinémas, l'ambiance n'est pas vraiment à la fête. La fréquentation s'est effondrée de 70% mercredi, date qui marquait l'entrée en vigueur du pass. Les professionnels appelle l'État à l'aide. À Nice, le maire Christian Estrosi décide de revenir sur ses pas. Les enfants n'auront pas besoin d'un pass sanitaire pour fréquenter les centres de loisirs de la ville. À la place, il leur propose de passer des tests salivaires. La route des vacances était bien encombrée. 1000 km de bouchons enregistrés à midi, journée classée rouge dans le sens des départs et orange dans celui des retours. Il a donc fallu patienter plusieurs heures avant de rejoindre sa destination. À Île-de-Ré, où vous êtes, Laura Taouchanoff, c'est déjà le cas. Ils sont enfin arrivés. Ils, ce sont les vacanciers.
Le voyage s'est bien passé ?
Après toute une nuit sur la route, il était temps d'arriver pour cette famille belge. Ils ont choisi une maison rétaise typique, façade blanche, volet vert. Bertrand, vous avez voyagé longtemps, là vous êtes fatigué ?
Ça va.
C'est madame qui a conduit ?
Non. J'ai pris le volant et j'ai laissé le volant à Tours.
C'est sympa la grande cuisine comme ça.
Oui. Un petit pinot des Charentes.
C'est gentil, merci.
Un petit savon de l'Île-de-Ré également.
Elle est trop belle, vraiment.
Et oui, c'est tout en bois, c'est joli. Hein.
Vous allez être bien là.
Oui, on va être très très bien. Oui, c'est la teuf. Hein. Nos enfants grandissent et on a institué le principe d'avoir une semaine ensemble.
Oh,
si vous voulez. Tant que faire se peut, et pour l'instant ça peut. Même si on a une jeune ado, mais elle est contente.
Je suis allée aux États-Unis pendant un an. Et du coup là je reviens, donc je suis vraiment contente de partir parce que ça faisait 10 mois que j'avais pas vu mes parents. On va faire du vélo, on va aller à la plage, il va faire beau, non j'ai trop hâte.
Il y a énorme araignée.
Ah oui, il y en a beaucoup. Oui.
Ah mais pourquoi tu l'as tué ?
Est-ce que vous avez passé une année difficile avec ce Covid ? Est-ce que vous avez besoin de souffler là ?
Fatigué, on l'est, on sait pas quand ça s'arrête, ça recommence à chaque fois et c'est en effet un peu particulier.
Oui, il était temps d'arriver, d'être en vacances.
Oui, tout à fait.
Bah, bonne vacances.
Merci.
C'est l'heure pour cette famille de défaire les valises et de profiter enfin de la tranquillité de l'île. Saint-Martin-de-Ré, Laura Taouchanov, Europe 1.
À Budapest, plusieurs milliers de personnes ont défilé pour défendre les droits des homosexuels. Une marche des fiertés qui espère faire pression sur le gouvernement hongrois. Son premier ministre Viktor Orban n'en démord pas. La loi interdisant les représentations homosexuelles sera soumise à référendum. C'est un monument qui vient d'être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Certains d'entre vous le connaissent et l'ont peut-être même déjà approché. Le phare de Corduan est d'ailleurs le dernier phare habité de France. Une vigie de pierre blanche qui balise l'entrée de l'estuaire de la Gironde face à Royan. C'est une fierté pour Pascal Calgo, présidente du syndicat mixte pour le développement durable de l'estuaire de la Gironde.
C'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de satisfaction aussi. C'est vraiment tout le bonheur d'avoir maintenant ce monument aujourd'hui inscrit au patrimoine mondial. Il a été réalisé dans l'esprit de succéder au phare d'Alexandrie. En tout cas, quand Henri IV l'a voulu, l'a décidé, c'était dans cet objectif-là, appartenir aux merveilles du monde. Donc aujourd'hui, cette reconnaissance à l'UNESCO, quelque part, la volonté d'Henri IV est aujourd'hui satisfaite. C'est le seul phare au monde maintenant de pleine mer qui est gardé. C'est le seul phare au monde qui a été construit comme un monument historique, comme un château royal. C'est aussi un phare où il y a toujours eu des découvertes, puisque la lentille de Fresnel a été inventée dans ce phare. Il a toujours été un symbole politique, historique, architectural et maritime. Il guide encore les bateaux, on fait des résidences d'artistes, il a une pleine vie et c'est ça, c'est pas seulement un monument qui a été construit il y a 400 ans. C'est qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, il fonctionne, il a toute sa légitimité, et ça, c'est assez formidable. Et donc, cette inscription va pérenniser toute cette animation autour de Corduan.
Cette consécration aussi, ça va aider peut-être pour sa conservation.
Ça va aider à sa renommée, ça va aider à sa préservation. On a un joyau comme le phare de Corduan. D'être inscrit au patrimoine mondial, ça va certainement ouvrir les yeux à un certain nombre de personnes qui ne le voyaient pas comme un monument qui va maintenant illuminer les deux rives du monde, quoi, hein. Donc, je pense qu'il y aura une fierté territoriale à l'issue de cette inscription à l'UNESCO et j'en suis ravie. Là, je vois ça crépite au niveau des mails et de Facebook. Donc c'est aussi tout un territoire, que ce soit la rive droite ou la rive gauche de l'estuaire, qui est fier de cette reconnaissance. Donc là, je suis sûre qu'il y a du champagne qui va couler ce soir.
Voilà, le phare de Corduan inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pascale Gault, présidente du syndicat mixte pour le développement durable de l'estuaire de la Gironde. Elle répondait à Caroline Baudry. Les Jeux Olympiques, une première médaille pour la France. Le judoka Luca Mekedze décroche le bronze en judo, catégorie des moins de 60 kilos. Un beau clin d'œil à la nation France, Simon Rubin, parce que franchement, le parcours de cet athlète fut tout sauf simple.
Hein. Eh oui, Luca Mekedze, c'est l'histoire d'un gamin géorgien qui monte sur les tatamis très jeune, hein, vers l'âge de 5 ans. La Géorgie, pays de judo et de lutte, hein, où là-bas l'apprentissage se fait à marche forcée. Alors il progresse vite, très vite, mais sa passion et toute sa vie sont balayées par la guerre qui éclate 2008, deuxième guerre d'Ossétie du Sud. Alors Luca Meredze doit quitter son pays après quelques mois en Pologne. Il arrive en France en tant que réfugié politique. Il s'établit en Normandie avec sa famille, retrouve la pratique du judo. Alors forcément, pendant son combat aujourd'hui pour la médaille de bronze, il a eu une pensée très forte pour la Géorgie, pour ses parents et pour cette autre vie qu'il a laissée aux confins de l'Europe.
Ce qui me donnait à chaque fois envie de me battre, continuer, pas lâcher, c'est aussi mon parcours, la famille que j'ai dû laisser en Géorgie. C'est aussi pour eux que je me bats et pour moi aussi, bien sûr.
Et puis Luca Meredze, c'est aussi un sportif Covid qui n'aurait sans doute pas été qualifié pour les Jeux en 2020 et qui a bénéficié du report d'un an de la compétition. Car ce n'est qu'avec son titre de vice-champion d'Europe en avril dernier qu'il a obtenu sa qualification pour Tokyo.
Simon Rubin du service des sports d'Europe 1, donc première médaille de bronze pour Luca Meredze. Et on vous retrouve bien sûr à 18h50 pour les résultats complets dans le journal des Jeux, Simon. Le football, c'est la reprise pour la Ligue 2 déjà, première journée et premier match cet après-midi. Le SC Bastia et Nîmes ont fait match nul, un but partout. En tennis, Arnaud Clément n'est plus le vice-président de la Fédération française. L'ancien capitaine de Coupe Davis dit vouloir prévenir tout conflit d'intérêts entre ses fonctions au sein de l'instance et ses emplois externes. On va voir ce que nous réserve le ciel pour le prochain jour.
L'été, c'est avec ou sans soleil. Mais la rentrée, c'est surtout l'esprit léger grâce aux solutions de garde d'enfants de la Compagnie des Familles. Tout de suite, la météo.
Laurent Cabrol, si j'ai bien compris, c'est une météo pluvieuse qui s'annonce ?
Bah oui, le temps a changé, vous l'avez constaté, chers amis, et demain, il en sera ainsi. Il en sera de même, oui, avec des régions plus ou moins arrosées. Un peu plus arrosées, le Nord, la Picardie, Champagne, Ardennes, Lorraine, région parisienne, Normandie, Centre et Bourgogne. Nous aurons à la fois des averses et des orages. Un peu plus salutaire sur la Bretagne, les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes et le Limousin, où les averses seront plus espacées. Un temps... Bon, allez, d'alternance, nuages éclaircis à égalité sur l'Alsace, la Franche-Comté et la région Rhône-Alpes. Vous voyez que j'essaie de mettre des nuances un petit peu dans les zones de pluie, mais enfin toutes les régions que je viens de citer seront sous un ciel le plus souvent menaçant. Dans le sud-ouest, il ne pleuvra pas ou très peu, et près de la Méditerranée, il sera voilé notre ciel. Les températures maximales pour demain, dimanche, 21 à Caen, pas plus, hein, 22 à La Rochelle, 23 à Lille et à Paris. Oui, 24 à Rennes, pas plus de 25 à Dijon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Strasbourg. Et puis, des températures un peu plus estivales. Lyon, 29, 32 à Marseille et 33, 34 vers Nîmes et Avignon.
Merci Laurent Cabrol.